Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
Il est 9h33 et puis, petit changement à l'horaire, nous allons parler avec Guillaume Brien dans quelques minutes. Mais avant ça, nous allons écouter une entrevue qui a été faite dans le cadre du Salon du Livre. Je vous laisse en apprendre plus sur ce Salon du Livre qui a eu lieu il y a quelques jours.
Tout le monde, bonjour. Pour une deuxième journée consécutive au Salon du Livre de l'Estrie, je suis en compagnie cette fois-ci de Maya Cousineau-Molène, auteure et poète engagée Innu, d'Equanishit. Maya, quoi?
Quoi? Comment?
Merci de prendre le temps de venir répondre à nos questions aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, vous êtes née à une époque marquée par la rave des années 60. Une période difficile pour les peuples autochtones, on ne se le cachera pas. Aujourd'hui, on parle de réconciliation, vous parlez de collaboration, oui. On parle aussi d'affirmation culturelle. Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes qui naissent maintenant évoluent dans un contexte plus propice à l'épanouissement ou que les mêmes défis reviennent, mais sous une autre forme?
Je crois que l'enfermement des réseaux sociaux et la pression que ça peut mettre sur ces jeunes-là peut être problématique à la longue parce qu'on essaye de se conformer à des tendances, de répondre à des défis. Mais où je suis optimiste pour les générations qui viennent après moi, c'est peut-être l'intérêt envers l'histoire, découvrir la vraie histoire, en fait, pas celle qui nous a été enseignée faussement. Leur intérêt, puis des fois aussi leur passion. Autant que ce soit des jeunes Québécois ou des jeunes qui viennent de l'extérieur.
C'est intéressant. Donc, c'est une nouvelle forme. Bien, on pourrait dire que c'est un peu les mêmes défis qui reviennent, mais sous une nouvelle forme avec les réseaux sociaux.
Oui, c'est ça.
Oui. Plusieurs auteurs et autrices parlent d'une écriture de guérison. Croyez-vous que la nouvelle génération écrira davantage pour célébrer et transmettre la culture? Et est-ce que cette affirmation culturelle peut aussi guérir?
Oui, l'affirmation culturelle aide à la guérison, mais il ne faudrait pas que la guérison tombe sous les... Parce qu'aujourd'hui, les tendances ont tendance à passer vite.
Oui.
Tu sais, on est tous dans le fast-food.
Oui, tout va vite.
Tout va vite, tout doit être consommé rapidement. On ne peut pas demander à quelqu'un de guérir en 3 semaines.
Non, ça, c'est sûr.
Donc ça, il faut le respecter. Il faut s'attendre
ça
à ce que certaines choses reviennent, prennent du temps. Écoute, juste pour te donner un contexte, moi, ma communauté, elle a été colonisée en 1963. Je sais que pour aujourd'hui, 2025, ça semble long, mais sur la ligne du temps, c'était avant hier. Donc, moi, je suis de la deuxième génération après la colonisation. La première, celle de mes parents, ils ont été dans les pensionnats, ils ont été affectés, profondément blessés. Puis on est encore à se remettre de tout ça.
Ouais, on est encore dans la phase des pensionnats. Là.
Oui,
on
n'a
même pas été à la rafle encore, quasiment. Là.
Non, c'est ça. Puis la rafle, c'est pas juste les années 60, c'est 60, 70, 80.
Oui, parce que vous êtes né en 1975.
C'est ça, oui.
Fait que c'est ça, ça a continué encore un petit bout après ça.
Exactement.
Vous avez beaucoup travaillé auprès des jeunes autochtones.
Oui.
Vous avez, entre autres, cofondé l'Association étudiante des Premières Nations à l'Université Laval.
Oui.
Est-ce que vos œuvres s'adressent aussi à ces jeunes ou vous cherchez à rejoindre un autre public?
Je te dirais que dans les débuts, je voyais que mes recueils, c'était surtout la population non autochtone qui les achetait. Puis le but aussi, c'était de créer un lien, mais d'utiliser un médium comme l'écriture, la poésie, qui n'est pas intrusive. Comme ça, je peux dire des choses qui sont difficiles et dures, mais par la beauté de la poésie, et les gens, ça les touche 2 fois plus que si j'étais devant eux en colère et frustrée. Donc, l'écriture, pour moi, est une voie privilégiée pour communiquer.
Oui, parce que raconter quelque chose de souffrant en utilisant la poésie, ça vient encore plus nous chercher avec les mots que vous utilisez, parce que des fois, c'est des beaux mots pour raconter des choses très laides.
Oui.
Donc, ce contraste-là vient vraiment nous chercher. Qu'espérez-vous aujourd'hui partager aux gens du Salon du Livre par votre présence et activité autour du feu?
c'est de les guider un peu à travers mon troisième recueil qui est sorti avant hier, qui s'appelle « Pour chaque perle offerte ». C'est peut-être que les gens qui vont venir s'asseoir avec moi repartent avec une perle, en fait, imaginaire, bien sûr, mais quand même une perle d'écriture qu'on pourra partager. Puis des fois, les gens aiment savoir le contexte qui m'a amené à écrire tel texte. Donc, ce que je vais faire, ça va être voyager avec eux à travers mon troisième recueil puis parler un peu du contexte qui m'a amené à écrire tel poème.
En parlant du salon, le thème cette année, c'est « Résister ».
Oui.
Diriez-vous que vos œuvres penchent plus du côté de la résistance ou de la résilience?
C'est un mix des deux. C'est un mix des deux parce que via la poésie que je publie, pour moi, c'est un pas vers la guérison.
Ouais,
mais je ne
ouais.
peux pas m'empêcher de résister. Encore aujourd'hui, à 50 ans, je suis en position de résistance parce que je trouve que où va la réconciliation amenée par le gouvernement? C'est le gouvernement qui nous est arrivé là, avec le terme réconciliation.
Oui, exactement.
Et moi, je n'aime pas le terme réconciliation.
Vous utilisez collaboration.
Collaboration, parce que dans la réconciliation, c'est que tous les partis ont fait quelque chose de mal.
Mm.
Et qu'est-ce que les Premières Nations ont fait de mal? Je ne le sais pas encore. Mais donc, pour ça, pour moi, ce thème, ce mot-là devrait être changé, mais un pas à la fois.
Dans une entrevue, vous dites que la poésie permet d'exprimer votre colère. Est-ce qu'autre chose nourrit votre écriture?
En tant qu'écrivaine, souvent, on est porteur d'une sensibilité plus forte que la moyenne. Et cela nous amène à percevoir des choses que peut-être la personne moyenne, régulière, verra peut-être pas. Parce qu'on est beaucoup dans l'observation et dans la perception. Donc, avec tout ça, ça m'amène à, des fois, à vouloir partager un sentiment, mettons, de pardon, de rédemption, même un peu, des fois, de joie, parce que souvent, ma poésie est plutôt dark, un peu. Mais ben, parce que j'ai été influencée en secondaire, quand on nous faisait lire Rimbaud et Baudelaire, là, on a été influencée par ça.
C'est
les fleurs
pas
du mal.
Fini, ça, encore! C'est
non,
pas
c'est
fini!
Ça. Mais moi, ce qui me fait rire maintenant, c'est que je commence à être étudiée aussi, je crois, au cégep.
Oui, oui. Oui. Je confirme, et à l'université aussi.
À l'université aussi, fait que j'ai toujours un petit rituel. Je vais voir ce marketplace sur Facebook et je vois mes recueils à 5$, 10$, 12$. Moi, ça me fait rire parce que j'ai l'impression d'être devenue la nouvelle Madame Bovary.
Bien, c'est drôle que vous dites ça parce que moi, je l'ai acheté. C'est même pas le livre que j'avais acheté pour l'école parce que je l'avais prêté à quelqu'un et. Je l'ai prêté à quelqu'un que je ne l'ai plus jamais retrouvé. Et là, je l'ai racheté au Salon du livre cette année parce que là, je me dis, je le veux, puis je veux que vous le signiez. Fait que c'est pas parce que je ne l'ai pas gardé, c'est parce qu'il y a des gens qui le voulaient.
Okay.
Fait que il y a quand même des gens qui vous lisent en
Mais
dehors des classes.
J'ai mis ton nom puis ton nom de famille dedans.
Je vous ai aussi entendu dire, ma seule arme, c'est mon écriture. Pourtant, vous avez aussi œuvré dans la sphère politique et communautaire, qu'est-ce que ces rôles ne vous ont pas permis d'exprimer ou de défendre que seule l'écriture vous a apporté?
Bien, quand je suis écrivaine, je suis libre, j'ai pas de maître. Quand on est employé, on a un maître. Hein? Il faut être loyal envers l'organisation, la corporation.
Oui, on est un petit peu censuré.
C'est ça. Fait que moi, en ce moment, je suis complètement libre, je suis écrivaine. Et j'aime beaucoup cette liberté-là d'expression. Et je peux me permettre d'émettre des opinions sans avoir peur que mon boss m'appelle dans le bureau pour me dire « il faudrait qu'on parle ».
Vous avez écrit en anglais, en français et en inou, notamment dans votre recueil « Bréviaire du matricule 082 ». Est-ce que c'est difficile de représenter votre réalité à travers ces trois langues?
En fait, anglais, c'est de la traduction.
Okay.
Mais j'ai collaboré avec le traducteur. Dans ma langue, c'est que j'utilise certains mots. Je parle pas ma langue. Ça a été malheureusement une des séquelles de la RALF des années 60 à 80. C'est la perte de ma culture et de ma langue. Mes parents adoptifs ont fait de leur mieux pour me donner des armes pour pouvoir continuer aujourd'hui. Mais c'est ça, la langue, à ce moment-là, j'ai pas eu la chance d'y avoir accès. Mais quand même, je la garde en mémoire. Je l'utilise dans ma poésie. Et voilà.
vos recueils de poésie, justement, Bréviaire du matricule 082 et Enfants du lichen sont tous les deux parus aux éditions Anénorak. Pourquoi avoir choisi cette maison d'édition?
Bien, c'était une maison d'édition qui, je crois, donnait des premières chances à des auteurs autochtones parce qu'il y a tout un processus d'adaptation, tu sais, puis quand on parle de diversité, tout ça. Fait que les maisons d'édition non autochtones ne savaient peut-être pas comment faire avec nous, comment s'adresser à nous. Et avec la maison Anénorak, à cette époque-là, j'avais accès à une directrice de rédaction, de révision, de création littéraire. Et ça m'aura permis de travailler avec elle et de pouvoir publier mes recueils sans trop de casse-tête et d'obstacles. Donc, et en même temps, ben, je crois qu'une fois que l'enfant s'est marché, ils nous envoient un petit peu à l'extérieur. Ils m'ont suggéré après ça d'aller voir d'autres maisons d'édition pour...
Okay. Puis là, je vois celui-là...
C'est l'Hexagone.
L'Hexagone, OK.
Ouais. Bon.
Super, vous allez nous en parler tantôt. Est-ce que vous avez eu des influences ou est-ce que vous avez des muses ou des influences littéraires quand vous écrivez?
Certains de mes textes sont dédiés à Joséphine Bacon. Elle a été la meilleure amie de ma mère au pensionnat, donc elle s'en rappelle. Et Richard Séguin. Richard Séguin. Ah oui, non, moi, quand j'étais adolescente, ma mère m'a fait connaître Richard Séguin, ma mère québécoise. Et heureusement que sa poésie était vivante et présente parce qu'elle me permettait de comprendre, de pouvoir m'exprimer aussi la peine, la rage. Il n'y a pas grand monde qui le savent, mais pour sa chanson « Aux portes du matin », il l'avait écrit en réaction à la crise d'Oka quand les familles Mohawk de Kanawagi s'étaient faites bombarder de roches, de pierres, de morceaux de bois par, malheureusement, des Québécois qui s'étaient rassemblés là lors de la crise d'Oka pour exprimer leur colère, mais c'est une manière vraiment débile de le faire. On parle aussi de la crise d'Oka, qu'il y a eu des morts du côté des Québécois, mais on parle très peu qu'il y a eu des morts du côté des Autochtones. Il y a eu des suicides, il y a eu un...
Ah, il y a eu le après,
ouais.
Là.
Puis même pendant le... Quand il se faisait, mettons, lapider, il y a un aîné qui a été frappé par une grosse roche et en est mort après. Tu sais, on n'en parle pas. Fait que quand Richard Séguin a écrit cette chanson-là, « Lancer les cailloux du mépris », ça, c'est une de ses phrases... C'était un peu en réaction à cet épisode-là. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a touchée.
Et pour terminer, je vous laisserai parler
ben
de votre nouveau recueil.
C'est parce qu'il est sorti juste avant, il y a avant, une journée avant que le Salon de l'Estrie commence. Et il va avoir un lancement le 21 octobre à Montréal, à la librairie Un livre à soi, si vous voulez venir. Ça s'appelle « Pour chaque perle offerte ». Je l'ai travaillé très fort avec mon éditrice, Marie-Hélène Poitras. Très sympathique. On s'est rencontrés lors de la remise des prix du gouverneur général et on a voulu travailler ensemble et ça a été quand même un travail intense et super intéressant. Donc, ce livre-là, ben, de moi à vous, je vous invite à vous le procurer puis découvrir cette poésie-là qui marche dans les traces de mes deux derniers recueils, mais avec aussi une variante. Et parce qu'en même temps, je suis quelqu'un qui voyage. Je vais en Europe et c'est un continent qui me fascine. Tu sais, j'y vais pas en tant que dire c'est des colonisateurs, des choses de même. Non, j'y vais pour tout le bagage historique. J'adore quand je vais dans ces pays-là marcher, découvrir l'histoire, découvrir des ruelles, des avenues et tout ça. Donc, on peut le ressentir quand on lit le recueil pour chaque perle offerte.
Bien, Maya, merci beaucoup pour votre temps encore une fois et je vous souhaite un très beau Salon du livre.
Bien, merci à toi, t'es super gentille.